Eh bien, pour terminer, non pour conclure, parce qu'on ne peut pas conclure, nous allons demander à chacun des grands maîtres de dire un mot pour terminer la soirée. Catherine, est-ce que vous voulez bien nous dire quelque chose pour terminer, mais on passera aussi à vos autres collègues.
Je pense qu'au moment où un certain voile de l'obscurantisme est en train de nouveau de vouloir recouvrir nos démocraties, je pense qu'il est fondamental que la franc-maçonnerie continue d'exister. Parce que la franc-maçonnerie adogmatique est une école de liberté. Donc, pouvoir deux fois par mois s'enfermer, comme nous disons, hors du temps, hors du monde, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir réfléchir par soi-même sans avoir un gourou ou sans être dans la pression médiatique, je pense que ça va être la grande liberté à venir. Et cette liberté, il faut continuer à vouloir la conquérir parce qu'elle est extrêmement importante pour tous les êtres humains et pour la femme en priorité.
Merci Catherine Thé. Alain Grézel.
Je rejoins ce qui vient d'être exprimé par Catherine et je ne vais pas le répéter. Alors, je voudrais simplement vous dire ceci. Il se trouve que dans 3 semaines précisément, je fête mes 33 ans de maçonnerie. Et 33 ans, au rite écossais ancien et accepté, ça a du sens. Hein, voilà, j'ai 33 ans de maison. Hein, voilà, le 24 novembre, là, j'ai 33 ans de maison. Et je voudrais. Oui, champagne. Bah, d'ailleurs, il y en aura, hein, je te le dis. Certes, oui. Et donc, je voudrais dire ceci. Moi, je travaillais dans l'industrie à l'époque et je suis rentré en maçonnerie parce que j'ai entendu une conférence sur France Culture. Et d'ailleurs, tous les troisièmes dimanches du mois sur France Culture à 9h40, les obédiences maçonniques s'expriment.
Absolument.
Et j'entendais donc, au mois de novembre 1983, une expression de quelqu'un que j'ignorais absolument, qui était le grand maître à l'époque de la Grande Loge de France, Henri Tornouguès, qui était professeur de philosophie à la Sorbonne, décédé depuis. Et ça m'a littéralement scotché. Moi, j'étais dans l'industrie, j'étais dans la technologie, et j'étais à fond la caisse là-dedans, en me disant que bah, ça, c'était ma vie, et que le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce type-là m'a expliqué qu'à côté de cette vie qu'on peut vivre passionnante par ailleurs, il y a des moments où on peut s'ouvrir à la question du sens de l'existence, qui est la sienne, et il a proposé, dans son allocution, dans son intervention, de vivre cela dans un cadre à la fois individuel et collectif. Individuel, pourquoi ? Parce que la progression, lorsqu'on rentre dans une loge, c'est une progression individuelle au sens où il faut faire un travail. La chose a été dite, je ne le répète pas. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que ce travail, qui pourrait être uniquement un travail individuel, vient s'enrichir de la sensibilité, de l'intelligence collective de tous ceux qui sont et de toutes celles qui sont, lorsque ce sont des obédiences mixtes ou féminines, qui sont en même temps dans cette tenue en face sur les colonnes. Les colonnes, ce sont les, comment dire, les rangées de sièges dans lesquelles nous nous installons. Ce qui fait que on arrive à élaborer, par un effort sur soi-même, mais dans la rencontre des autres, quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective. Et c'est un moment absolument exceptionnel à vivre, dont, au bout de 33 ans, je n'ai pas réussi à me lasser. Or, reconnaissez-le, en 33 ans dans la vie d'un être humain, il y a des choses dont on peut éventuellement se lasser. Eh bien, pas ça. J'ai dit.
Oui, puis quand on sait qu'elle a plus de 250 ans, Philippe Poussier.
Je souscris à ce qui a été dit par Catherine et Alain, et à l'avance par ce qui sera dit par l'autre Alain. Donc nous sommes complémentaires dans nos expressions. Pour vous dire une chose, c'est que ce qui a été la grande vertu de la franc-maçonnerie quand elle s'est développée dans notre pays et sur notre continent en général, c'est qu'elle a permis de se réunir des hommes, à l'époque il n'y avait que des hommes, que tout séparait dans l'ordre social et dans la vie civique. Des hommes qui étaient des nobles et des roturiers, qui étaient des savants, qui étaient des artisans, des commerçants, qui étaient des militaires, qui étaient des curés, des évêques, des pasteurs. Et ces hommes ne pouvaient pas se rencontrer, ne pouvaient pas dialoguer dans la vie civile et dans l'ordre social. Et donc la franc-maçonnerie, elle leur a permis de se retrouver dans un espace de liberté, d'égalité et de fraternité. Ça a été la vertu essentielle de la franc-maçonnerie dans ce XVIIIe siècle. Et ça demeure. Cette autorisation de abolir les catégories du monde profane. Et c'est encore la vertu de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire cette tension vers l'universel, c'est-à-dire ne reconnaître des individus qu'à partir de leurs qualités et leurs vertus propres, et non pas leurs héritages. Et cet universalisme qui est notre forme d'humanisme, celui vers lequel nous tendons et pour lequel nous combattons, il reste extraordinairement moderne, parce que nous voyons de plus en plus les idéologies qui ne sont pas que d'extrême droite vouloir à nouveau essentialiser les hommes, avoir une lecture ethnique, racialiste des rapports sociaux. Et donc face à ce défi, face à cette menace, à ce retour d'une forme d'obscurantisme, nous avons toujours à marteler le message universaliste, c'est-à-dire ne reconnaître les hommes et les femmes que pour leurs qualités propres et non pour leurs héritages, qu'ils soient biologiques, sociaux, culturels, ethniques ou religieux.
Alain Michon.
Bon, tout a été dit, on arrive toujours trop tard. Mais comme Philippe a dit qu'il était d'accord avec ce que j'allais dire, je me sens tout à fait, du coup, autorisé. Bon, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que je crois qu'il faut bien qu'on comprenne la portée de ce qu'on a vécu ce soir. C'est un moment de rencontre très particulier, très riche, qui est sans doute à ondes longues dans l'esprit de chacun et de chacune d'entre nous. Nous avons essayé de faire partager notre idéal, notre combat pour des idéaux, notre fidélité, un programme ancien mais dont nous nous sentons toujours porteurs, renouvelé. Il y a sans doute là-dedans effectivement une part d'utopie, mais si on perd le rêve très grand qu'on a dans notre tête au nom de certaines utilités immédiates, on va perdre notre humanité peut-être, tout simplement. Donc c'est absolument essentiel de garder cette part utopique qui est en nous, non pas au sens d'une part perdue, fumeuse, etc., mais au sens d'une part de construction de quelque chose à venir. La société française, toutes les sociétés du monde sont traversées par des choses qui la menacent profondément, c'est évident. Et je ne vais pas revenir là-dessus, les maçons mènent un combat contre ça, c'est très clair, et nous en sommes tous partie prenante. Il y a aussi des éléments dans la société qui sont des éléments positifs, des découvertes positives, des associations qui mènent des combats vaillants, courageux, sur des tas de chantiers possibles. Et nous nous sentons solidaires aussi de ces chantiers-là. Nous ne sommes pas extérieurs à ce monde-là. Je crois que les plus jeunes, puisque c'était un peu adressé pour eux ce soir, auront compris que nous comptons sur eux pour poursuivre le combat. Nous ne faisons pas de prosélytisme, c'est vrai. Mais bon, nous sommes quand même venus vous rencontrer.
Merci.
J'ai dit.
Le message aux jeunes. Merci à tous de votre participation active et de l'écoute. Je crois que nous pouvons remercier vivement l'association Georges Trois Points de cette initiative d'avoir organisé cet événement assez exceptionnel. Et merci vivement à nos quatre intervenants d'avoir fait le déplacement, d'être venus nous parler. En espérant que ça ouvre de nouveaux horizons. Merci à notre, je vous demande de l'applaudir, le technicien qui nous a accordé sa soirée. Bonne soirée, bonne discussion entre vous pour prolonger cet échange et peut-être à un prochain café maçonnique. Bonsoir à tous.